On va poursuivre avec... Ah bah tiens, Marion. Puisqu'on parlait de Marine, parlons de Marion, parce que Maréchal Le Pen est intervenu aussi au sujet de ce qui s'est passé. Alors attendez que je cale bien mon petit son. Marion Maréchal Le Pen qui est revenue sur cette fameuse tribune. Elle a fait... un grand écart. Je vous propose de l'écouter.
Je trouve qu'il serait intéressant, au contraire, qu'on puisse permettre et clarifier pour que les militaires aient une plus grande liberté d'expression, parce que je pense, et c'est d'ailleurs le cas de ces militaires, que leur expérience sur des théâtres d'opérations extérieures, des pays en guerre ou des pays qui ont connu la guerre civile, leur permet d'avoir une grille d'analyse, évidemment, qui n'est pas celle du commun des mortels et qui est intéressante, justement, pour pouvoir dénicher les signes avant-coureurs qui pourraient éventuellement exister dans la société relativement à l'état de guérilla latent que nous vivons au quotidien. Donc moi, je trouve qu'au contraire, on a besoin des militaires dans le débat public, et je m'étonne d'autant plus que, je veux dire, typiquement, c'est un procès qu'on n'aurait pas fait à De Gaulle lorsqu'il sort il est colonel à l'époque où il écrit Vers l'armée de métier. C'est un texte qui fait beaucoup parler, qui est très critiqué dans les cercles, y compris par le gouvernement de l'époque. Et pourtant, personne ne s'offusquait du fait qu'un militaire puisse s'exprimer dans le débat public.
Ouais, alors, la famille Le Pen, qui a mis à peu près 2 générations à réussir à prononcer le nom De Gaulle sans s'étouffer, visiblement, il faudra attendre encore un peu pour qu'elle comprenne la différence qu'il y a entre rassembler une nation et menacée d'un coup d'État. Voilà, c'est quand même très étonnant ce parallèle qui est fait entre De Gaulle et les différents généraux aujourd'hui dans cette tribune. Oh, j'en connais un qui se retourne dans sa tombe.
On n'avait pas eu De Gaulle, il sera jamais mis en examen, je sais pas quoi. Là. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Non, qui avait sorti ça?
Oui, exact. Fillon, exact. Oui, c'était Fillon. C'était Fillon. Pauvre c'était Gaulle, Fillon.
Ouais, laissons-le tranquille.
On le met souvent à toutes les sauces. Hein.
Et pauvre Fillon aussi. Hein, parce oui.
et Marion Maréchal Le Pen, si elle a effectivement quitter la vie politique, qu'elle n'intervienne pas sur ces sujets.
Bah, qu'on l'invite pas.
Bah, oui.
Moi aussi.
Alors, j'ai vu qu'à LCI, il y a un gars qui vient de partir, qui était chroniqueur, journaliste, et qui est candidat. Alors, les RN au régional. Donc, Thierry, toi qui es dans le métier, il y aurait des taupes, là, des gens qui incrusteraient les médias, qui seraient bien politisés, qui balanceraient en substance quelques messages discrets. Moi, ça m'a vraiment étonné, cette histoire. Alors, je sais pas ce que chez toi, tout va bien.
Non, mais bon, c'est pas la première fois que des journalistes quittent pour aller faire un autre métier.
Oui, mais ça veut dire, dans le discours, dans la façon d'interviewer, dans la façon de faire passer des messages, il y avait quatre de ces têtes, comment on dit, subliminales, mais ça devait exister. Enfin, ça me paraît un peu étrange. Hein. Non.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Vous avez un avis là-dessus?
Ça me gêne moins que les généraux qui parlent à tout va.
Ouais, mais il y a quand même un mélange des genres qui peut être quelque peu troublant. Enfin,
c'est-à-dire qu'en fait, rétroactivement, voilà, tu te dis, voilà, rétroactivement, tu te dis, le gars, il était journaliste et il s'est. Noël Mamère, plus bel exemple.
Par rapport à l'objectivité que se doit d'avoir un journaliste, on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Et ça a l'air d'être une tendance de plus en plus forte. Et puis on invite de plus en plus dans les émissions, dans les talk shows, des politiques, des anciens élus. Voilà, un mélange des genres, on brouille les cartes.
Mais c'est pas la première fois. Il y a aussi cette charmante journaliste qui a quitté justement son journal et son métier pour aller rejoindre la maire de Paris. Mais j'ai oublié son nom.
Audrey Poulevard.
Voilà, Audrey.
Ah oui. Eh oui.
Voilà, c'est un autre exemple. Il y en a plein, hein, comme ça, qui décident du jour au lendemain de.
Oui, alors évidemment, on ne savait pas. Là, il y a un côté rétroactif. C'est. Il ne s'avoue pas. Maintenant, par exemple, quand j'irai acheter un livre de Stendhal, Le Rouge et le. Je penserai à Audrey Poulevard.
Il nous l'a replacé.
Non, mais ça m'énerve.
Mais oui, Jean-Paul. Voilà.
Alors, moi, je me suis aussi intéressé à autre chose pour finir avec ce dossier de nos généraux. C'est le côté télé, pour savoir un petit peu comment les gens et les journalistes et les chroniqueurs surtout avaient réagi à ça. Et alors, j'ai vu qu'il y en avait qui trouvaient jolie cette tribune, Pascal Praud en tête. Voilà, Pascal Praud, qui dit interpréter cela comme un appel à la guerre civile, c'est juste malhonnête intellectuellement. C'est ce qu'il a dit. Zemmour lui a dit, l'État ne tient plus son territoire, on est dans une situation qui va vers la guerre de tous contre tous. Mais bon. Hein, c'est CNews hein, aussi, hein, donc c'est notre Fox News à la française. Et j'exagère à peine, j'ai trouvé un montage sur Twitter, extrait de l'émission Quotidien, que vous connaissez certainement. Ce montage est très parlant sur ce qui se passe sur une matinale, sur CNews. Alors c'était peut-être là aussi un hasard, mais je vous propose d'écouter. C'est très étonnant.
Ce matin, on était bien, on s'est levé, on a pris une tasse de café. On a allumé CNews à 7h, l'invité, le FN Mariani.
Thierry Mariani, bonjour.
Bonjour.
Eurodéputé Rassemblement National.
Le lien entre immigration et terrorisme est évident.
Merci coup, Thierry Mariani.
Du coup, on est resté sur CNews, 8h, le FN Bardella.
Bonjour, Jordan Bardella.
Bonjour. Mais on voit bien que le lien entre l'immigration et le terrorisme, il est évident.
Merci.
La gestion. Merci
Jordan
à vous.
Jordan Bardella.
Du coup, on est resté à 9h, le FN Collard sur CNews.
Gilbert Collard est avec nous.
Les sans-papiers, des passeurs, demandeurs d'asile.
Gilbert Collard, merci en tout cas d'être.
Merci à vous.
Même chaîne, 10h, le FN Lacapelle.
Non, Lacapelle, bonjour. Merci d'être la députée européenne du Rassemblement National.
Ouais. Il y avait un lien entre l'immigration et qu'il y avait un lien entre l'islamisme radical.
Ouais, merci beaucoup.
Même chaîne, midi.
Andrea Cotarac, tête de liste en Auvergne-Rhône-Alpes, et vous avez le soutien de Rassemblement National.
D'abord, je crois que sur la question, le lien immigration et attentat, il est aujourd'hui évident.
Bon après-midi sur CNews.
Et on a éteint CNews à midi parce qu'on a voulu dénoncer un sans-papier, on s'est arrêté.
Non, c'est quand même très étonnant, l'espace d'une matinée. Tous les invités étaient des représentants du Rassemblement National.
Avec la même phrase qui revient tout le temps. Ça fait penser, vous vous souvenez, le film de Costa Gavras, Z.
Oui, absolument.
Le juge qui accueille les gens, et chaque fois, il y a un gars qui lui dit « Ah oui, il était souple et agile comme un tigre. » Parlant d'Yves Montand.
C'est, ouais.
C'est
la phrase leitmotiv. Voilà. Absolument.
Ils ont des éléments de langage qui s'approprient tous et qui répètent tous la même chose. Moi, quand j'entends ce genre de choses, j'ai envie de
tous les partis. Hein.
Oui, j'ai envie d'éteindre ma télé et d'allumer la radio, d'écouter Alpin.
Bon, bravo, il fallait passer là. Alors là
je marque des points.
Vincent, c'est formidable. Ça tombe bien.
Vas-y.
Une seconde. Parce que figurez-vous que je savais qu'il allait y avoir une brillante chronique de notre ami Philippe.
Comme d'habitude.
Vincent, et je me suis permis d'appeler les parents de. De cet animal qui est à ma gauche, tiens, ça tombe bien, d'ailleurs. Et pour lui dire, bon, racontez-moi des blagues qu'il a faites. Non, il est parfait.
Non, moi j'y crois pas. Hein.
Si. Voilà un homme qui est sportif, dont on dit qu'il fait du vélo, du surf, où il faisait, du paddle, alors ça je sais pas trop, et de la plongée, bien qu'il n'aime pas le poisson. Alors qu'il aime bien la côte de bœuf et les choux à la crème.
Ah, bien renseigné.
Et ensemble?
Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aussi appris que il faisait un potager depuis 2-3 ans. Ça, c'est le côté
écolo. Ça, c'est électoral, ça.
Voilà. Exactement. Ça, c'est pour gagner quelques voix. Mais là, il va fâcher. Tiens, on n'a pas parlé. On a parlé des chasseurs tout à l'heure, qui votent ou votent pas, et des bricoleurs. Il aimerait bien être bricoleur, mais paraît-il, il a peu de capacité.
Oui, c'est très juste. Alors moi, justement, je suis assez admiratif de mes parents qui sont très bricoleurs, comme tu le sais, Jean-Paul, rebâti toute leur maison eux-mêmes. Et voilà, je regrette pour l'instant, mais on peut toujours corriger ça. Je regrette suffisamment de qualité manuelle.
Des gens comme nous, ça fait travailler l'artisanat. Ouais,
en tout cas, c'est désespérant.
C'est bien, oui.
Désespérant d'avoir quelqu'un à sa table là, et ne pas pouvoir trouver une petite solution. On aurait appelé, bon, sans dévoiler, ça lui fera pas de peine. On aurait eu son frère. Là, on pouvait.
Il aurait balancé.
Pas,
hein.
Mais là, lui, on peut pas.
On pourrait lui demander pourquoi il a arrêté de travailler pour Gérard Frob, par exemple.
Éventuellement. Mais c'est partagé, je pense.
Alors, je peux y répondre. Hein,
voilà. En tout cas, le mot gros bosseur est arrivé. Ça, je le savais, puisque c'est pas dévoiler un secret. Je t'ai connu à une époque où tu faisais 14 heures par jour quand tu étais aux environs de l'Argentière. Puis tu es venu à Briançon et tu faisais 13h30 par jour. Et qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Tu fais combien?
À peu près la 15 même
heures.
Chose. Et c'est ce que me reproche madame à la maison, que soi-disant, je lui avais vendu ça pour être plus disponible, avoir plus de souplesse pour ma vie de famille. Et je reconnais. Non, mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. Hein.
Il n'a plus le temps d'écouter du rap, parce qu'il aime bien le rap. Mais Charlotte, puisque j'ai plaisir à parler de Charlotte, son épouse, charmante épouse, lui a fait découvrir l'opéra. Lequel d'opéra?
Nabucco.
De Verdi.
On est allé à Turin, mais c'était juste avant la première crise sanitaire.
Je connais pas Nabucco de Verdi.
Voilà.
Au mois de février 2020, c'était le début de la crise sanitaire en Italie. On avait trouvé Turin désert, on n'avait pas compris. Le soir, en allumant la RAI, on a mieux compris ce qui se passait.
Donc, tu vois, voilà, je sais que tu fais quand même des efforts, voilà, que tu abandonnes petit à petit le rap. que tu étais fervent supporter de l'OM, mais que tu as de moins en moins. Elle te défend bien, ta maman. Parce qu'elle dit, avec son boulot, il peut plus voir les matchs de l'OM, il peut plus faire de paddle. Tu me diras un jour à quoi ça correspond. Mais elle le trouve gentil. Alors là, c'est une mère admirable, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a des candidats. Elle le trouve gentil, taquin, têtu. Têtu. Mais tout de suite, je lui dis, oui, non, mais c'est pas ça. Je voudrais, donne-moi des éléments dans son enfance. Il a fait des bourdes, des trucs, des... Non.
Que dalle.
Il a une qualité, c'est d'être attentif aux autres. Ça revient souvent dans le langage de ta maman et de ton père. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ta maman exagère un peu? Et est-ce que tu envisages, on va voir le côté agréable, est-ce que tu envisages de partir en vacances avec l'ancien maire depuis Saint-Pierre? Ça, c'est pour Thierry.
Ça, c'est vache, ça.
Tu me l'as rappelé.
Ça, c'est vache.
Alors, j'ai pris suffisamment dans la gueule avec une conseillère municipale de Briançon pour le réserver aux autres. Hein.
Pour te répondre, Jean-Paul, évidemment, ma maman exagère forcément. Ben, en plus, je suis le petit second. D'où. Il y a une partie de vrai quand même, mais évidemment, comme tout le monde, j'ai mes défauts. Et souvent bah, le revers des qualités. Je suis persévérant, mais donc je suis têtu aussi. Par contre, c'est vrai que voilà, je suis un bosseur, je suis attentif aux autres. C'est pour ça que je m'intéresse à la vie politique. Donc, c'est ce souci-là. Alors, pour te répondre, pour partir en vacances avec mon prédécesseur, peut-être pas. Néanmoins, je tiens à préciser, parce que ça a été un peu gardé sous silence. Avant de me déclarer l'année dernière, j'étais allé le rencontrer, discuter avec lui, puisque lui avait pas fait partie de ses intentions. Et quoi qu'il en dise aujourd'hui dans la presse, après notre élection, on allait le voir, le remercier pour l'ensemble de son œuvre des 31 ans passés à la tête de la commune. Aujourd'hui, voilà, il dit que je lui dis pas bonjour, que je le méprise, je le traîne dans la boue, c'est pas du tout vrai. Quoi que j'en pense, je respecte l'homme, je respecte son parcours. Voilà, après, on a le droit de pas être d'accord.
Voilà. Et nous allons parler des vaccins, les enfants. Parce que c'est pas tout ça, mais bon, on en est où avec ces vaccins? Alors, des vaccins, on se rend compte, en fait, que les gens n'ont pas forcément confiance, hein, en ces vaccins. Bon, on a le cas de l'AstraZeneca, mais bon, on voit aussi que ça traîne un peu des pieds, quoi. Hein. On a vu aussi des médecins qui se filmaient en train de jeter des doses de vaccins parce qu'ils ne trouvaient pas preneur. Les vaccinodromes ont du mal quelquefois à faire le plein, c'est pas simple. Bernard Tapie, dimanche dernier, sur TF1, est monté au créneau. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit. Un petit bout, mais c'est important. Je pense qu'il a bien résumé.
Le combat là. En colère. Parce qu'en plus, vous oubliez de dire l'essentiel. Si tu te vaccines pas parce que tu veux pas et que t'en crèves, t'as choisi. Mais là, c'est tu fais crever les autres. Car tant qu'on n'aura pas un nombre de vaccinés qui permettra d'enrayer la pandémie, on fait mourir les autres. Donc, c'est pas seulement un combat pour soi. Merde, c'est un combat d'équipe. Chaque citoyen doit comprendre qu'il est un relais par rapport aux autres. Il faut absolument se faire vacciner. Je vous assure.
Voilà. Il nous assure qu'il faut absolument se faire vacciner. On est comme tous les vendredis avec notre médecin Louis Albran qui est avec nous. Salut Louis.
Bonjour Thierry, merci pour ton invitation et bonjour à tous.
Bah, ça fait toujours plaisir de t'avoir. Louis, t'as entendu Bernard Tapie, il a raison évidemment.
Eh bien sûr, il a raison, oui. Il a raison. Hier, j'ai été en contact avec un médecin d'un grand service à Paris. 60% de ses soignants ne sont pas vaccinés.
Ça, c'est pas normal.
Eh oui.
Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment voulez-vous ?
Il y a toujours ce mouvement anti-vax qui représente 30-35% de la population française, hélas.
Parce que comment voulez-vous inciter les gens à se faire vacciner si le personnel médical lui-même ne veut pas se faire vacciner ?
Oui.
C'est compliqué, là, c'est compliqué. Alors,
ce sont les aides-soignantes qui sont le moins vaccinées.
D'accord. On se posait une question cette semaine, et c'est une question qui se pose en général un petit peu partout. On voit que il y a une certaine génération, hein, celle qui a de plus aujourd'hui de 60 ans, qui a du mal à aller se faire vacciner. Et du coup, il y a la génération en dessous qui, elle, aimerait bien aller se faire vacciner, mais ils n'ont pas encore le droit. Pourquoi ne pas ouvrir la vaccination à tout le monde, Louis ?
Moi, je serais partisan, mais enfin, il est aussi logique d'essayer de protéger le plus vite possible
les plus anciens.
Qui sont en grand danger, bien sûr. Oui.
Ben oui. Ben
alors
oui.
Maintenant, on est en train de l'élargir.
Oh. Ah, on a perdu Louis. On va le retrouver. C'est pas grave. Louis ? Alors, on va retrouver Louis.
Allô ?
Oui, on a été coupé, excuse-moi.
Oui, je disais qu'on est en train de l'élargir aux plus de 40 ans qui présentent une obésité ou bien une pathologie qui les met en situation de risque. Voilà. Mmh. Donc je pense que ça va bouger très vite. On va élargir la vaccination.
D'accord. Une question aussi importante. Il y en a beaucoup aussi là depuis hier qui sont montés au créneau en disant le calendrier de Macron pour le déconfinement, ça va un peu trop rapide. C'est trop rapide. En tout cas, ce sont beaucoup d'épidémiologistes et de médecins qui pensent ça. Ils trouvent que ça ne baisse pas et que c'est dangereux de déconfiner. Qu'est-ce que tu en penses ?
Évidemment, ça, c'est le discours des réanimateurs. Quand tu sors de ton service où tu as vu des gens de 40 ans mourir dans la nuit, tu as une angoisse qui te fait dire qu'il faut être protecteur au maximum. Mais je pense que le président a raison. Maintenant, il faut ouvrir.
Il faut y aller.
Même dans les Hautes-Alpes, je pense qu'on pourrait ouvrir davantage dès maintenant et gagner un mois. Actuellement, le virus circule peu dans les Hautes-Alpes.
Tu sais qu'il va être question ensuite, je pense, de mettre en place une gestion qui sera beaucoup plus locale, hein, d'après ce qu'on a pu comprendre. Hein.
Oui, c'est une bonne chose. Alors, il y a une autre bonne nouvelle, j'ai vu hier déjà de l'Institut Pasteur, c'est qu'on parle beaucoup du danger du variant HIT indien.
Oui, oui. Indien, hein. Il est terrible.
Alors,
celui-là.
Or, en Inde, il y a beaucoup de morts, mais c'est comme on l'avait dit à la population, des nutritions, beaucoup d'autres pathologies, et puis des foules immenses, on voit tous à la télévision, ces foules qui se rassemblent.
C'est l'horreur.
En fait, ce fameux variant indien, il ne représente en Inde seulement que 30% des cas.
D'accord.
Le reste, les 70%, c'est le UK variant, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le variant anglais, c'est celui qu'on a nous chez nous.
D'accord.
Voilà. Alors ce fameux variant anglais, le B1177, il ne représente que 30%. Donc, il n'est pas aussi dangereux et mortel qu'on peut le laisser entendre. Et si là-bas, il y a beaucoup de morts, c'est parce qu'il y a une situation sanitaire dramatique. D'ailleurs, les Américains ont envoyé aujourd'hui même d'autres médecins, des respirateurs, de l'oxygène. Enfin, il y a une entraide internationale qui est en train d'aider l'Inde.
Oui, je sais que la France aussi a emboîté le pas et
on voyait
des images absolument hallucinantes de personnes avec leurs bonbonnes en attendant devant donc un entrepôt de pouvoir remplir leurs bonbonnes pour aller apporter de l'oxygène à leurs proches.
Je crois que pour la France, l'important c'est de bien protéger pour l'entrée du variant brésilien.
Oui.
En continuant dans les aéroports à avoir une très bonne politique de prévention. C'est le plus important.
Par contre, il y a un truc qu'on ne sait pas faire, hein, c'est cette fameuse quarantaine. Tu as vu que dans beaucoup de pays, je vais prendre l'exemple de la Chine, si tu arrives en Chine, si tu n'es pas vacciné d'ailleurs avec le vaccin chinois, même si tu es vacciné avec un autre, c'est quarantaine obligado. Hein. Donc nous, en France, on le fait pas ça. C'est-à-dire que c'est quarantaine, mais c'est quarantaine à la maison. Alors que il aurait fallu peut-être ouvrir les hôtels pour justement obliger les gens à être en quarantaine. En Angleterre d'ailleurs, ça se passe comme ça, et non seulement ils sont en quarantaine, mais en plus c'est eux qui payent.
Oui, en France on fait confiance, on dit aux gens rentrez chez vous, on contrôle, il y a quelques contrôles, mais tu as raison, il faudrait peut-être endurcir les méthodes de contrôle, oui.
Une dernière question, Louis, tu es plutôt optimiste ?
Je suis optimiste parce que le gouvernement a accéléré la vaccination, parce qu'il a eu les doses. Puisque le gouvernement, l'Europe, a pu avoir les doses. Et si on vaccine 500 000 personnes par jour, je pense que d'ici le mois d'août, on sera beaucoup plus tranquille.
Et Loulou, tu sais que je suis sur une liste d'attente. Je suis sur une liste d'attente pour le vaccin avec AstraZeneca.
Mais c'est ce que j'ai fait et je suis toujours là pour te parler.
C'est super. Alors on se retrouvera.
Je vous souhaite une bonne
vendredi.
Journée à tous.
Merci à Louis.
Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
Merci à toi. Voilà Loulou qui est bien sympa et que l'on a régulièrement donc pour faire un petit point. Ton avis sur tout ça ?
Alors bon, moi je suis pas médecin, mais c'est vrai que c'est on a du mal. Je vois bien moi les habitants sont perdus avec les changements de règles. Et moi c'est quand même ce qui m'inquiète. Et qui revient quand même beaucoup. Certes, on parle de la vaccination de nos pays développés, mais si j'ai bien compris, tant que dans tous les pays, parce qu'on parle de l'Inde, mais le Brésil, c'est quand même aussi très chaud, et tant que voilà, dans tous ces pays, la vaccination ne progressera pas, plus les virus circulent, plus il y a de variants, on va pas pouvoir maintenir le pays, même si ça va mieux en France sous cloche, en fermant les frontières avec tous les pays. Donc il est important, dans le même temps qu'on vaccine chez nous, qu'on s'assure que bah, dans les autres pays aussi, ça va.
Oui.
Sinon, ça va créer un déséquilibre qui, à mon avis, va faire que la pandémie risque de durer longtemps.
C'est pour ça que l'aide internationale est très importante. Et d'ailleurs, on voit aussi l'Europe envoyer des vaccins, notamment en Afrique. Voilà. Donc ça, c'est quand même une chose très importante.
Accélère de tous côtés.
C'est le système COVAX. Ça s'appelle le système COVAX.
Avant d'appeler notre ami Loulou, je te trouvais un petit peu pessimiste, alors que lui, qui d'habitude nous cassait un peu le moral, quand
voilà,
même. Et là, il a été remarquable.
Ouais.
Enfin, hier, quand même, il y a eu 540 000 vaccinations.
Hein, ouais, ouais. Mais si on arrive.
En Allemagne,
si un million. Oui.
La journée, c'est...
Mais si on arrive à, si on arrive
monte,
à
ça
tenir.
Monte, ça monte.
Peut-être pas un million tout de suite, mais si on arrive à tenir le rythme de 500 000 par jour, on est pas mal, quoi. On est pas mal.
Non,
ça
non,
va,
c'est
ça va s'accélérer.
À condition, quand même, qu'il y en ait plus que les 60-70% qu'on nous annonce qui a envie de se faire vacciner.
Exactement.
Et sinon, à un moment, pareil, on va atteindre un plafond.
Mais pour l'instant, hier, on a dépassé 15 millions de
première dose.
16 millions sera atteint, je pense, dimanche soir ou lundi. Si la courbe continue, enfin les chiffres continuent comme ça.
Bah dès l'instant où tu
16
sais,
millions, c'est déjà pas mal.
Mais
les
dès
enfants.
L'instant où tu ouvres, si jamais on ouvre assez rapidement à tout âge, je pense que ça va monter beaucoup plus rapidement que ça, quoi.
Tu as raison parce que hier dans les 540 000, enfin il y a eu 30 000 premières injections. Il y a beaucoup de gens comme mes enfants, je prends mes enfants, qui sont pas éligibles et qui sont passés. Et ben tant mieux, allez hop, descendons, descendons à 50 ans, 48 ans, 47 ans.
Allons-y, soyons fous. Et on va terminer parce que on est déjà arrivé au bout, hein, mine de rien, ça va vite. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, si vous voulez, je peux répondre, mais on est passé à un autre sujet, donc on va demander la réponse. Pourquoi avoir arrêté de travailler avec Gérard Fromm?
Bah, déjà, il a pas été réélu, donc c'est le propre d'un collaborateur de cabinet. Il est lié au destin politique. Non, je vais pas faire de langue de bois. Moi, je suis parti quelques mois avant la fin de son mandat, justement pour préparer ma compagne sur Puy Saint-Pierre.
Tu t'es fâché?
Ah non, pas du tout.
Ah d'accord,
tout.
Ok. Alors, moi, c'était pour savoir.
Aussi bien quand je suis parti de chez Joël Giraud. Voilà, pour moi, la loyauté en politique, je sais que c'est une denrée rare, mais ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Voilà, j'ai eu l'impression d'être allé au bout, moi, de ce que je pouvais faire auprès de lui, et c'est ce que je lui avais expliqué à l'époque. Peut-être pour la première fois, à un moment, j'ai eu envie de penser à ma pomme, de penser à moi. Et quelque part, alors c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais le scénario qu'on a connu était un petit peu inéluctable. Moi, je l'ai vécu en interne, la division avec une frange de l'équipe et notamment Madame Poyot. Voilà, ça faisait un moment que ça se nourrissait à l'intérieur et je savais très bien que ça allait finir par éclater, que dans cette configuration-là, ça allait être très compliqué.
C'était compliqué. Ouais.
Donc, j'ai pas voulu quitter le navire en pleine tempête, mais à un moment, je me suis dit, voilà, ton avenir est devant toi, tu es jeune, pense aussi un petit peu à toi et je crois que bien m'en a pris.
Et la loyauté existe en politique. Pour preuve, Édouard Philippe qui a décidé de ne pas se présenter au présidentiel l'année prochaine. Voilà, vis-à-vis de son copain Manu. Bah quoi ?
Pour l'instant.
Ah, je savais pas.
Bah si, il va pas se présenter.
Oui.
Il l'a dit.
Sauf s'il y a une embûche dans le parcours du président sortant. On avait connu ça il y a en 2017. Je vous rappelle que les candidats favoris.
Si Emmanuel Macron ne se présente pas, oui, là, Édouard Philippe irait, évidemment. Mais tant que Macron est là, il n'ira pas.
D'accord.
Et c'est très sage parce que.
C'est de la loyauté.
Franchement. Il continue, oui, c'est bon, je trouve.
Ouais.
Et en plus, qui plus est, ça lui fait pas perdre de gens qui le soutiennent. Donc,
mais non, voilà. Puisqu'il est, la première personnalité préférée des Français
il est
aujourd'hui.
Pressé. Voilà. Attendant. Il fera pas l'erreur du monsieur dont on a parlé tout à l'heure, qui, il y a 5 ans, aurait dû dire, bon, c'est raté pour moi, je continue plus. Mmh. Voilà.
Merci Vincent Faubert.
Merci vous,
d'être venu sur la table du Coq à l'âne. C'était le numéro 692. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.